Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie. Je reçois aujourd'hui sur notre antenne un auteur prolifique, Monsieur Vivien Lévy-Garbois, qui a fait paraître récemment chez PUF, en duo avec Gérard Marek, un macro-psychanalyse, l'économie de l'inconscient. Alors, monsieur Vivien Lévy-Garbois, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur notre antenne.
Bonjour.
Et vous vous occupez par ailleurs de hautes responsabilités dans le monde de la banque et de la finance, puisque vous êtes membre du comité exécutif de BNP Paribas. Nous aurons donc, dans le prolongement de votre ouvrage, certainement à disserter un peu sur ce qui fait la grande actualité économique et financière actuelle, que tout le monde connaît, la crise financière, et peut-être aussi sur un certain nombre d'autres publications que vous réalisez, notamment du côté de l'Association d'économie financière, où vous avez publié un article très remarqué sur la crise financière, analyse et propositions, et niveau des risques. Peut-être, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais un peu plus vous présenter. Vous me direz si je n'oublie rien. Vous êtes un X, un polytechnicien. Vous êtes en plus diplômé de Harvard et vous êtes un théoricien et un praticien de la monnaie et de la banque. Vous avez notamment publié chez Economica « Macroéconomie contemporaine » avec M. Wehmiller en 1981. Et la dette, le boom, la crise, avec une nouvelle fois Gérard Marek. Donc, vous avez récidivé avec cette récente parution. Quant à Gérard Marek, qui aujourd'hui n'a pas pu se joindre à nous, mais qui est votre condisciple, c'est aussi un X. Il a été secrétaire général de l'INSEE, responsable des études économiques d'une grande banque, et il a lui aussi publié de nombreux ouvrages, dont notamment Introduction au capital de Karl Marx chez Kalman Levy en 1978 et un livre avec vous que je le rappelais tout à l'heure, ainsi que Macroéconomie et gestion d'actifs en 2003. On pense qu'on va pouvoir rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Alors je lis ce que le quatrième de couverture dit comme présentation de votre ouvrage et là vous allez pouvoir immédiatement le commenter. C'est d'ailleurs très très bien fait, on félicite celui qui a fait cette synthèse. Au moment où les neurosciences permettent d'appréhender in vivo les comportements humains, où les économistes doivent reconnaître les limites du paradigme de l'homme rationnel et où l'histoire contemporaine prend un cours si manifestement déraisonnable, il était tentant de revisiter Freud et la psychanalyse, transposer de manière méthodique et rigoureuse de l'individu au groupe ou à la société la théorie psychanalytique. Telle est la démarche de cet ouvrage. Alors voilà, donc l'introduction est en fait. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Et c'est vrai que c'est une tendance assez lourde de voir des sciences un peu moins traditionnelles par rapport à l'économie venir à son secours, car l'économie, la science économique et la pensée économique, à l'heure actuelle, traversent des périodes de doute. Je fais encore une nouvelle fois une liaison avec la crise financière. Et donc, la philosophie est donc avec vous la psychanalyse, la macro-psychanalyse, vous allez peut-être nous dire ce que c'est que la macro-psychanalyse, vient elle aussi contribuer à la réflexion de la pensée et à la rénovation peut-être de la pensée économique. Alors, à vous, la macro-psychanalyse, d'abord, c'est quoi?
Alors, je crois qu'il faut, vous avez rappelé très justement que Gérard Marek et moi, nous sommes des économistes. Nous sommes des économistes qui avons à la fois travaillé dans la théorie économique, été passionnés par cette théorie économique et en même temps été dans des entreprises, dans des banques et vu la réalité économique dans notre carrière. Nous sommes des économistes et nous croyons à l'économie, c'est-à-dire que nous pensons que les économistes ont des choses à dire sur les phénomènes globaux de la société et y compris bien sûr les phénomènes financiers contemporains. Néanmoins, comme tout le monde, on doit reconnaître qu'il y a un certain nombre de sujets qui ne sont pas facilement expliqués par les économistes ou par l'hypothèse de rationalité qui est sous-jacente à l'économie. les économistes d'ailleurs le connaissent et se démènent actuellement très fortement pour trouver des nouvelles techniques, des nouveaux domaines, des nouvelles manières d'approcher la rationalité pour élargir leur champ.
Il y a un certain nombre d'ailleurs de présentations sur l'analyse comportementale. Ça déjà, c'est très avancé.
L'analyse comportementale, c'est une des voies par lesquelles les économistes essayent d'élargir les hypothèses, au fond d'élargir la notion de rationalité. C'est une rationalité dans un cadre un peu plus large. Et notre démarche, c'est une démarche un peu similaire, mais un peu plus radicale en même temps, puisque nous nous sommes dit, dans la mesure où l'économie est trop enserrée dans le carcan de la rationalité et n'arrive pas dans ce carcan-là à rendre compte d'un certain nombre de phénomènes qui nous sautent aux yeux et qui nous sautent à la figure, n'y a-t-il pas une autre manière de compléter l'approche économique? Et au fond, comme on s'intéressait aux problèmes d'irrationalité, aux problèmes d'anomalie par rapport à ce qu'on observe...
Alors individuels et des groupes.
Et des groupes et collectives. Eh bien, on s'est dit quelle est la discipline qui a pour vocation, pour fonction de rendre compte de l'irrationalité, de l'anormalité en quelque sorte. Et bien entendu, on tombe sur la psychanalyse. C'est ce qui nous a amené à regarder la psychanalyse à travers, bien sûr, une lecture extrêmement studieuse et laborieuse, mais passionnée, je dois dire, de l'œuvre de Freud.
Cela se sent, mais pourquoi dites-vous macro-psychanalyse ?
Alors, l'idée, à partir de là, ça a été de faire... dans le domaine appliqué à la société, appliqué à des grands groupes, un peu ce que l'économie fait quand elle fait le passage de ce qu'on appelle la microéconomie à la macroéconomie.
Tout à fait. Donc c'est par référence à la macro et à la microéconomie.
Par référence à la macroéconomie, on a parlé de macro-psychanalyse.
Vous développez donc dans votre ouvrage trois parties, c'est extrêmement intéressant. D'abord l'individu, ensuite le groupe et, ce qui ne manque pas de sel, des études de cas. Avec, je dis, ce qui est en table des matières, ces études de cas sont très intéressantes. Portrait de famille, l'entreprise en analyse, le management au risque de la psychanalyse, études cliniques, la fin des empires et la modernité. Alors, on reviendra sur ces différents aspects. Alors, maintenant, on voit quel était le sens de votre recherche, je puis dire, puisque c'est quelque chose qui n'est certainement pas totalement stabilisé encore. Alors, à l'issue de cette étude et de ces pages que vous avez écrites, qu'est-ce que vous concluez, en tout cas, comme pré-conclusion, qu'est-ce que vous avancez ?
D'abord, la psychanalyse, vue par des économistes, par des non-psychanalystes que nous sommes, c'est une discipline qui a, avec finalement un tout petit nombre d'hypothèses, une capacité de rendre compte d'un certain nombre de phénomènes. Et donc, une première partie de notre travail, ça consistait à dégager les quelques hypothèses intelligibles, compréhensibles et qui nous paraissaient transposables de l'individu, à la société ou au groupe. Et ça, ça a été le premier temps. Et deuxième temps, ça a été d'essayer de voir si on pouvait articuler les concepts ainsi dégagés au niveau du groupe. C'est ce que vous présentiez quand vous parliez de la deuxième partie sur le groupe.
C'est ça.
Bon, et enfin, troisième partie, nous nous sommes livrés hardiment à une interprétation d'un certain nombre de phénomènes dans des cas que nous avons pris, l'entreprise, la famille, enfin un certain nombre de sujets, pour voir si ce prisme, cette lecture nous disait des choses. Bon, et ma conclusion, ou notre conclusion, c'est que oui, c'est intéressant, en tout cas ça nous paraît intéressant, et ça rend compte de choses qui sont très complémentaires d'une approche économique ou d'approche d'autres sciences sociales,
philosophiques,
mais qui y échappent et donc viennent compléter ou en tout cas donner un éclairage qui nous paraît pertinent, qui nous paraît important sur l'interprétation que l'on peut faire des phénomènes sociaux. Si vous voulez... la psychanalyse n'est pas une discipline aussi formalisée, aussi complète, aussi rigoureuse, sans doute à ce stade, que l'économie. Et donc, d'une certaine manière, on est dans l'interprétation. On a une sorte de grille, on a essayé de dégager une grille d'interprétation de la société ou de ces grands groupes qui permettent de dire des choses qui ne sont pas naturellement dans le discours économique.
Alors justement, donc, sans trahir les économistes et le consensus, néanmoins, pouvez-vous, à l'issue de cette réflexion, dire quelque chose sur la crise financière, puisque en fait, voilà, vous parlez de rationalité, du carcan de la rationalité, des phénomènes de groupe. Alors là, on est en plein dans un cas réel.
Absolument.
Alors, réel et irréel aussi, je veux dire, par sa dimension.
Le paradoxe de cette crise, c'est que l'économie en rend assez bien compte. Les gens n'en sont pas toujours conscients parce qu'ils ont l'impression que tout ça est extrêmement chaotique. Mais l'économie rend assez bien compte de ce qui se passe dans cette crise. Il rend assez bien compte, mais il y a quand même des phénomènes qui justifient, me semble-t-il, notre approche.
Je vais juste... Mais justement, alors là, vous êtes là pour ça. Hein.
Alors, qu'est-ce que dit l'économie ? L'économie dit qu'il y a une crise classique de crédit dans le domaine de l'immobilier, des excès faits par des organismes financiers aux États-Unis.
Une politique monétaire.
Une politique monétaire
permissive,
etc. Donc, ça, c'est le point de départ. C'est une crise très classique de crédit sur les subprimes, hein, ces crédits de moins bonne qualité aux États-Unis, avec d'ailleurs au départ presque une intention un peu sociale hein, dans ces subprimes. Mais enfin, des excès très forts. Bon, premier point. Deuxième point. Il y a ensuite des spécificités à cette crise qui sont le fait que la distribution des crédits ensuite s'est faite à travers une large population via ce qu'on appelle la titrisation, c'est-à-dire qu'on a transformé ces crédits en objets financiers qui ont été distribués très largement. Et puis, troisième point, les crédits qui ont été faits, soit ceux des subprimes, soit tous les autres crédits qui ensuite ont été touchés par ricochet par la crise, sont extrêmement complexes, parfois très difficiles à comprendre, difficiles à valoriser. Et il y a aussi un peu une sorte de crise sur la valorisation et la signification des risques pris.
C'est
l'analyse économique.
C'est ce qu'André Lévy-Lang appelle la salade niçoise.
Absolument. Ben voilà, on a une salade niçoise. Un peu moins agréable à consommer, néanmoins, que la salade niçoise. Et bien entendu, ensuite, tout ça, ça a des ricochets sur la liquidité des banques, parce que la confiance disparaît, ensuite sur les autres secteurs et sur l'économie réelle. Donc, si vous voulez, on est capable, je pense qu'on est capable, d'expliquer assez bien la crise financière et économique telle qu'elle se produit. Ensuite, il y a plusieurs questions qui se posent. C'est si on est si capable de l'expliquer aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on n'a rien fait avant ? Deuxièmement, une chose qui est pour moi très, très frappante, c'est comment se fait-il que fin juillet 2007 ou début août 2007, c'est-à-dire au début de la crise d'une certaine manière, de la crise financière violente, il y a eu une telle panique, hein, une telle intensité immédiatement dans la crise ? Alors qu'au fond, au départ, c'était une crise cantonnée à un secteur particulier de l'immobilier aux États-Unis, etc. Et troisièmement, dans le déroulement de cette crise, que l'on suit jour après jour...
Avec angoisse.
Comment expliquer cette crispation, cette angoisse et comment cette irrationalité, finalement, cette subjectivité très forte, cette émotion autour de la crise financière ? Alors, là-dessus, qu'est-ce que peut dire la macro-psychanalyse ?
Voilà, c'est ça. Là, oui.
Elle dit plusieurs choses. Elle dit d'abord qu'au fond, toutes les crises financières, elles ont des caractéristiques communes qui peuvent s'expliquer assez bien en termes de macro-psychanalyse. Premièrement, il y a toujours un objet de désir. Hein. Derrière toute crise, il y a un objet au sens de la psychanalyse, c'est-à-dire quelque chose qui cristallise toutes les
l'objet les, par les différenciation motions, avec, la, avec le sujet.
Avec le sujet, absolument. Alors l'objet de désir, dans la crise Internet, c'était les actions Internet, c'était le clic, si vous voulez. Dans la crise actuelle, ça a été la finance globalisée, l'immobilier, etc. Donc il y a toujours un objet autour duquel se cristallise le problème. Ensuite, il y a toujours une croyance. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mythe, d'accord, d'histoire qu'on raconte. Au moment de la crise Internet, c'était classiquement le fait que le monde avait changé, que l'économie n'avait plus les mêmes règles, etc. Et aujourd'hui, enfin aujourd'hui, où il y a un an, il y a 18 mois, c'était la globalisation, c'était l'émergence des pays du tiers-monde, et, enfin des grands pays comme la Chine, l'Inde, la Russie, etc. C'était la fin de l'inflation et des taux d'intérêt durablement bas. C'était l'histoire de base. Et puis, il y a un déclencheur. Alors là, ça a été évidemment l'affaire Bear Stearns, les fonds de Bear Stearns, une sorte de petit grain de sable qui, tout d'un coup, déclenche quelque chose. Ouais. Et typiquement, une crise financière, elle se déroule à travers quelques phases. La première phase, c'est une sorte de phase maniaque, au sens de la psychanalyse. Oui. C'est-à-dire que les acteurs sont tout pleins de leur désir de cet objet dont j'ai parlé. Rien ne les arrête. Il y a une sorte de pulsion, de création, d'innovation, de vie qui est considérable. Et c'est la phase euphorique, en quelque sorte, un peu aveugle, mais euphorique, qui balaye tout, qui fait que les professeurs, les universitaires qui peuvent dire c'est excessif, etc., ne sont absolument pas entendus. Alors ensuite, il y a une deuxième phase qui a dû se produire quelque part au début de l'année 2007. Et c'est la phase pendant laquelle on commence à avoir des signes avant-coureurs et où les gens, d'ailleurs, des universitaires ou des hommes d'affaires, etc., commencent à dire il faut faire attention, etc. Et dans ces cas-là, les gens sont dans leur déni, c'est-à-dire qu'ils ne refusent de voir, ils interprètent tout dans le sens qui leur convient, ils ne prennent que ce qui les arrange et ils laissent de côté des informations désagréables, etc. Donc ça, c'est une phase très très importante et c'est ce qui fait que la bulle ou la crise va trop loin en quelque sorte. Bon, ensuite, il y a une phase avec un déclencheur, l'affaire Bear Stearns, qui permet de prendre conscience qu'il y a quelque chose, quoi, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est une phase assez longue, parce que c'est une phase assez pénible, dans laquelle il faut atterrir, il faut s'accommoder, s'adapter. Et en général, c'est une phase qui est caractérisée par deux choses. Premièrement, la recherche de boucs émissaires. Et ça, on n'y échappe pas. Tous les PDG, PDG de grandes banques ont sauté.
La notation financière.
Les agences de notation ont été très sévèrement critiquées. Les hedge funds.
Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une part de responsabilité.
Mais enfin, il y a des boucs émissaires très forts. Et en même temps, il y a une énorme culpabilité. C'est-à-dire que les acteurs, dans la communauté financière, en tout cas, il y a une énorme culpabilité. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi est-ce qu'on a exagéré comme ça? Comment est-ce qu'on s'est laissé entraîner à cela? Donc c'est ça la phase dans laquelle nous sommes, d'ailleurs, hein, qui est celle dans laquelle, d'ailleurs, le système, l'agent global, communauté financière internationale, hein, essaye de reprendre ses esprits. Alors cet agent, il est fait d'acteurs, un peu comme dans le psychisme de l'individu. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... Vous savez que dans l'individu, il y a le ça, qui est un peu la force vive, qui est créatrice, qui est celle qui fait le lien avec le corps humain et qui est au fond toutes les forces vives de la finance, dans le cas que nous regardons, qui sont à la fois créatrices d'innovation, de valeur, mais aussi à l'origine d'un certain nombre de risques. Il y a donc ce ça, mais il y a aussi un moi qui est un peu le pilote, qui est le chef. Et dans la communauté financière internationale, c'est typiquement M. Trichet pour la BCE, M. Bernanke pour la Fed,
Paulson.
Et maintenant M. Paulson, qui visiblement joue un rôle majeur comme leader du monde entier aujourd'hui. Et puis il y a un surmoi. Naturellement, c'est-à-dire tout ce qui correspond aux contraintes intériorisées par la communauté financière, qui sont les choses à ne pas transgresser, quoi. Et certainement, dans les phases euphoriques, dans les phases maniaques, le surmoi est laissé de côté.
On l'oublie.
Il est symbolisé par les régulateurs. Il est symbolisé parfois par des figures emblématiques. Monsieur Warren Buffett, typiquement, pourtant ce n'est pas un régulateur, mais c'est quelqu'un qui symbolise une sorte d'image à la fois
de bon
sens et de grand financier. C'est-à-dire qu'il est à la fois
une référence.
Hein, voilà. Et puis il y a aussi un quatrième acteur qui sont ce que nous on a appelé dans notre livre le professeur, c'est-à-dire les gens qui regardent le monde, l'analyse du point de vue de la rationalité et qui en font une interprétation. Et ce qui se passe aujourd'hui, enfin la phase où nous sommes, c'est que bien sûr, le moi qui a été un peu groggy essaye de reprendre ses esprits et de redynamiser tout cela. Alors ça, c'est, je pense, l'explication de base d'un cycle. Alors dans le cas de la crise des subprimes, je pense qu'il y a deux caractéristiques supplémentaires qui en font la particularité et d'ailleurs, d'une certaine manière, la gravité. La première, c'est le phénomène de la titrisation, c'est-à-dire cette diffusion du risque. Et ça, c'est un phénomène qui correspond à une sorte de clivage qui s'est produit à l'intérieur de la société financière, de la communauté financière, clivage au sens de la psychanalyse, hein, où au fond, on n'a pas bien vu, on n'a pas bien séparé. Les bons objets, les mauvais objets. Quoi. Ouais. Tout objet financier, par définition...
Est devenu pourri, comme
ça. Mais tout objet, par définition, a du bon et du mauvais. Il a du rendement et du service, et puis il a du risque. Le risque, c'est toujours mauvais, d'une certaine manière. Quelque part, il y a eu un clivage très, très fort, qu'on peut voir dans les institutions financières, qui a fait que se sont séparés d'un côté le côté sympathique des objets, c'est-à-dire la décision de faire des choses, d'avancer...
De permettre,
et d'un autre côté, la rigueur qui essaye de réduire les risques. Et au fond, dans les institutions financières, il s'est créé souvent une double filière, une filière de vendeurs qui pulse vers l'innovation et vers le développement, mais parfois en négligeant le risque. Et d'un autre côté, une filière de régulateurs internes, en quelque sorte, d'hommes de risque, qui essayent d'arrêter et qui progressivement, tout ça
converge.
Normalement, doit converger vers une décision finale. Mais quelque part, la décision finale, elle est très, très difficile à prendre parce que vous avez d'un côté quelqu'un de sympathique qui vous apporte de l'argent, etc. Et de l'autre côté, quelqu'un qui vous apporte des nouvelles mauvaises alors que tout va bien. Et donc, très facilement, un certain nombre de banques se sont laissées entraîner par cette séparation et donc n'ont pas réussi à stopper cette...
Alors, si vous voulez bien, on va revenir après une courte pause sur cette approche psychanalytique de la crise financière. On se retrouve dans quelques secondes.
Mireille Delmas-Marty, professeure de droit international au Collège de France, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, se dévoile au cours de notre émission en habit vert. Elle nous livre les détails de sa carrière de chercheur, expert auprès de plusieurs ministères et de l'Union européenne. Mireille Delmas-Marty, les forces imaginantes du droit, une émission à télécharger librement sur Canal Académie.
Bien, chers amis, nous nous retrouvons avec notre auteur Vivien Lévy-Garbouas, grand responsable financier d'une banque très importante au niveau européen et mondial, qui a fait paraître l'ouvrage « Macro-psychanalyse, l'économie de l'inconscient ». Et nous étions donc au point où nous étions dans une étude de cas pratique, puisque nous regardions la crise financière avec le regard de la macro-psychanalyse, en tout cas de la logique de réflexion qui est conduite et qui est absolument passionnante dans ce remarquable ouvrage paru chez PUF. Vous nous disiez que la crise financière avait donc, d'un point de vue psychanalytique, trois dimensions. Et vous nous avez rappelé, et on était au point de savoir comment on allait s'en sortir, en quelque sorte, donc la phase maintenant de renouveau, vue aussi dans une logique de macro-psychanalyse.
Ouais. Oui, la phase de redressement est particulièrement difficile dans cette crise, comme je vous l'ai expliqué, parce qu'elle a cette caractéristique d'avoir, à côté des systèmes normaux d'envolée, d'excitation et de manie, en quelque sorte, puis ensuite de culpabilité, de dépression, elle a cette caractéristique qu'on a vue dans ce clivage et ce déni d'un certain nombre de choses. Et puis, il y a un autre phénomène que je voudrais juste rappeler pour finir, avant de répondre exactement à votre question, qui est le phénomène de la valorisation. Les actifs sont devenus très difficiles à valoriser. Ils sont très complexes. Ils sont parfois cotés sur des marchés. Parfois, ils ne sont pas cotés sur des marchés. Ils sont de gré à gré.
Donc, il n'y a pas de prix.
Et donc, il est très difficile de se faire une idée précise du prix. Il n'y a pas de profondeur du marché ou de prix vraiment significatif. Et donc, c'est aussi un des facteurs de détachement possible de la réalité. C'est-à-dire qu'il est possible de vivre d'une certaine manière sur l'illusion que les choses ont une grande valeur, etc., alors que ce n'est plus tout à fait vrai ou ce n'est plus du tout vrai. Et cet aspect de détachement entre la réalité et la perception par la communauté financière, par une banque, par un fonds, etc., de la valeur d'un actif, c'est quelque chose qui rappelle très fortement la psychose en psychanalyse. Et on sait que la psychose, c'est quelque chose qui est très difficile à guérir. Je crois qu'il y a, à côté des phénomènes habituels d'une crise financière, que je vous ai décrit tout à l'heure, quelques facteurs qui sont aggravants, en quelque sorte, et qui font que cette crise est difficile et particulièrement difficile à guérir. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement pour essayer d'en sortir, en tous les cas ? On voit bien ce qui se passe. On voit que d'un côté, vous avez une communauté financière qui n'arrive pas tout à fait à s'en sortir toute seule et arrive une sorte de sauveur, de leader incontesté, là, actuellement, en tous les cas, qui est Henry Paulson, un peu, avec Bernanke, avec Trichet d'une certaine manière, enfin, avec les banques centrales, mais Paulson est une sorte de personnage un peu emblématique dans les semaines qui viennent de s'écouler, qui, d'une certaine manière, prend le leadership, donc devient l'objet de toute la communauté financière compte sur lui, ça devient un peu l'objet d'amour, un peu de cette communauté financière, si je peux me permettre, et en même temps, lui-même, il désigne des boucs émissaires, c'est-à-dire qu'il désigne des ennemis. Il sacrifie d'une certaine manière Lehman Brothers, donc il sacrifie une banque d'investissement, alors que lui-même vient dans sa carrière
même de Lehman Brothers,
de Goldman Sachs.
Ah, c'est de Goldman Sachs.
Il vient du monde de la banque d'investissement, donc il sacrifie une grande banque d'investissement après Bear Stearns, juste après ce sacrifice de Lehman. D'ailleurs, Merrill Lynch s'associe et entre dans le giron de Bank of America. Et donc, progressivement, vous voyez, il y a des boucs émissaires qui sont désignés. Et dernier point, ce que fait Paulson, ce que tente de faire Paulson, c'est au fond d'élargir le sujet, puisqu'au fond, il ne s'adresse pas seulement à la communauté financière internationale, au groupe dans lequel il y a le problème, mais il s'adresse à la communauté américaine dans son ensemble. Et ce qu'il est en train de mettre en place, c'est ce système de rachat de créances mauvaises aux banques américaines, donc en faisant d'une certaine manière payer potentiellement, en tout cas, le contribuable américain. Donc il sort de la sphère financière pour résoudre la question, donc qui n'arrive pas à se résoudre complètement à l'intérieur de la sphère financière elle-même.
Je pense que cette étude de cas, in vivo, si je puis dire, a été assez remarquable. Et ceci, je pense, va donner envie à vos lecteurs, et à nos auditeurs d'abord, mais vos lecteurs ensuite, d'aller regarder, mais là ils le feront en découvrant votre ouvrage, sur donc des éclairages qui sont portés sur un certain nombre de phénomènes et de problèmes aussi variés que l'évolution de la famille contemporaine, les modes de management de l'entreprise, la crise des banlieues, le débat sur la modernité, la disparition des empires, la question juive ou les fusions d'entreprises. Alors, peut-être que vous pouvez nous donner un éclairage sur un de ces thèmes, celui qui vous paraît le plus logique par rapport à ce que nous venons de dire, et nous laisserons aux lecteurs le plaisir d'aller découvrir les autres approches, mais je pense qu'ils vont en avoir très très envie à travers ce que vous avez démontré par rapport à la crise financière.
Je vais prendre un exemple qui est un peu mixte entre l'entreprise et la politique, qui est celui de la fusion. Et je vais le dire en quelques mots pour que ce ne soit pas trop complexe et rébarbatif pour les auditeurs. Dans une fusion d'entreprise, qui est désormais un phénomène classique dans la vie des affaires et des entreprises, et donc des salariés, il y a typiquement la nécessité de vraiment faire en sorte non seulement que les économies et les individus des entreprises s'habituent à travailler ensemble, interagissent, etc., mais quelque part, il faut que le psychisme des deux entreprises qui fusionnent soit rassemblé, réuni, intégré. Et ça, ça se fait en général, dans toutes les fusions qui réussissent bien, par une fusion des états-majors. c'est-à-dire par une fusion des, vraiment de ce que j'appelle les moi, si vous voulez, des.
La fusion ou la disparition en partie de certains.
Donc il faut que quelque part, qu'on commence par la tête.
C'est ça.
Et toutes les fusions qui ont réussi ont commencé comme ça. C'est-à-dire qu'elles ont commencé par une fusion de la tête. Juste après, il faut que les valeurs de l'entreprise, le surmoi, enfin les règles du jeu qui sont communes, progressivement s'unifient. C'est pas si simple. Chaque entreprise a sa personnalité, a son identité, s'est construit des valeurs. Et donc, il faut que l'entreprise A et l'entreprise B qui fusionnent réussissent à construire ensemble des valeurs communes. Et c'est ce qui fait que souvent, dans les fusions, il y a peu après que l'état-major ait été constitué, il y a une sorte de grand-messe dans laquelle on essaye de vendre, de valoriser une des culture, valeurs nouvelles.
Une culture commune, en fait.
Qui sont communes. Oui. Et tout un tas d'exercices de constitution de culture, etc. Bon. Et puis, ensuite, et seulement enfin, en quelque sorte, la base... c'est-à-dire toutes les équipes de salariés, de collaborateurs, etc., fait la fusion. Bon. Et ce n'est que si les deux premières étapes sont bien franchies que la troisième peut se faire. En tout cas, c'est l'expérience que moi j'ai vécue et je pense que c'est l'expérience que les consultants qui ont vécu beaucoup de fusions ou qui ont accompagné beaucoup de fusions répètent. Et ça, je pense que c'est très, très, très typique de ce qui peut se passer et de la constitution d'un psychisme collectif d'un nouveau groupe. Et si je fais le parallèle avec la politique, c'est pour dire la chose suivante. Dans la période actuelle, ce qui est quand même très frappant, dans la crise financière actuelle, ce qui est très frappant, c'est la difficulté qu'a l'Europe à exister, à s'entendre. Chacun des pays d'Europe fait sa propre réglementation, sort sa propre consigne sur le short-selling, etc. Et on voit bien qu'il y a énormément de mal à avoir une Europe réunie, à part la Banque Centrale Européenne. Et donc... Là, l'Europe est exactement le cas inverse. C'est-à-dire, l'Europe est un cas de société politique ou de fusion politique entre des pays qui a décidé de ne pas se faire par le haut, qui a décidé de ne pas se faire par le moi, vraiment, mais par
Je lis ce que vous dites à la page 278. « Et le temps risque d'être long avant que n'apparaissent des valeurs partagées, la conscience d'une origine et d'un destin commun. L'Europe est aujourd'hui à peine un groupe structuré. Les traités européens restent encore un règlement de copropriété, avec tout ce que cela sous-entend de disputes mesquines. » Enfin, donc, c'était une synthèse absolument remarquable.
Oui, mais c'est traduire le fait que l'Europe choisit une voie extrêmement lente, qui est la fusion par le bas, c'est-à-dire la fusion des pays, des peuples, qui en plus ont des langues différentes. Et donc, il faut espérer que les Français, les Anglais, les Allemands et les Danois finissent par réussir à avoir une sorte de d'identité commune, etc. Ça peut prendre très longtemps. Et ce n'est pas une voie facile et sans doute ce n'est pas la voie la plus simple pour construire une Europe politique et forte.
Un dernier mot avant que nous concluions cet entretien.
Écoutez, je crois que
le message essentiel,
c'est de dire que, au-delà des analyses classiques et qui sont bien sûr très intéressantes et très importantes et qui rendent compte d'une grosse part de la réalité, je pense qu'il faut chercher des pistes nouvelles, que celle-là en est une, qu'elle nous paraît assez riche, qu'elle est en tous les cas différente et qu'elle dit des choses différentes de celles que l'on lit dans les ouvrages sociologiques ou psychologiques classiques. Et en tous les cas, c'est un travail en cours et nous continuons d'ailleurs, les développements sur la crise financière en sont un exemple, mais on travaille sur d'autres sujets pour voir si cette approche est fructueuse. Et moi, je n'en doute pas personnellement. J'invite les lecteurs ou les auditeurs à s'intéresser à une démarche qui essaye, disons, de donner un peu de consistance quand même rigoureuse à des choses que l'on a tendance parfois à galvauder dans la presse ou dans le langage courant. C'est cette démarche un peu rigoureuse, mais néanmoins herméneutique, pas du tout, qui ne prétend pas à la science dure, qui est la nôtre.
Et vous avez regardé un peu, là aussi, les ponts qui étaient posés par un certain nombre d'auteurs entre la philosophie et l'économie, Comte Bonneville, bien entendu, mais plus récemment de nous, Pascal Blanquet, avec ses carnets monétaires. Vous avez quel regard vous jetez sur cette
Je pense que les philosophes ont des choses intéressantes à dire. Il y a, par exemple, beaucoup de réflexions des philosophes sur l'évolution de l'individu,
absolument,
qui me semble très importante et qui ne sont pas tout à fait
L'individu et aussi l'entreprise, l'individu et la personne morale. Enfin, donc oui, aujourd'hui, absolument. On se demande où se trouve la vraie responsabilité et si les citoyens n'ont pas un peu perdu de leurs droits par l'entreprise. Enfin, écoutez, je crois qu'on pourrait continuer encore longtemps. Vous avez un sens inné de la pédagogie. Vous nous avez passionnés et j'invite donc tous nos auditeurs et nos lecteurs à courir chez PUF pour acheter le livre « Macropsychanalyse, l'économie de l'inconscient » par Vivien Lévy-Garbois et Gérard Marek. 325 pages, 21 euros. Monsieur le Président, merci encore à vous et au plaisir de vous retrouver sur notre antenne.
Merci à vous.
Merci à vous.
Au revoir.